depuis la suite.
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio. Les parents sont rentrés en criant. Vous mangez après travailler. Ouais, les 2 heures. Je suis chômeur. Je suis pointé. Moi.
Wesh la famille, on se les gèle, hein. Bienvenue sur Radio Caro.
Radio Caro.
Radio Caro. Bienvenue sur Radio Canu, donc 102.2, la plus chaude des radios. C'est 19h et c'est l'heure du très sérieux Cano.
Cano en fût.
Bon, c'est la dernière fois que tu lances les titres, mais comme il voulait vraiment le faire, on l'a accepté pour la dernière fois. On va donc à l'international, on va commencer par les Philippines avec le président Duterte qui menace d'utiliser la loi martiale. Puis on ira en Corée du Sud avec le boss de Samsung qui est impliqué dans de grosses histoires de corruption. Ensuite, on ira en Belgique avec l'échec d'une opération antiterroriste. Puis en Argentine avec une forte répression d'une sorte de ZAD qu'avaient fait depuis des années les Indiens Mapuches. Et au final, pour l'international, on ira faire un petit bilan du sommet France-Afrique.
Sinon, en national, on va parler des cotisations sociales des sans-papiers, des primaires de la gauche, des délibérés de Goodyear et aussi du retour de l'autorisation parentale pour le voyage des mineurs. Et enfin, de violences policières, encore et toujours, après la mort à Auxerre d'une personne lors d'une interpellation.
Pour l'info locale, on parlera encore des revenus de Gérard Collomb, mais aussi d'un centre de préparation au retour à Gerland qui fait un peu flipper. On reviendra encore sur l'hébergement d'urgence parce que, comme on le disait, il fait froid. Et enfin, une petite actu sur un braquage à Vaux-en-Velin. Et ensuite, on aura un dossier sur Donald Trump qui va bientôt être investi de ses fonctions présidentielles.
Puis nous finirons par le traditionnel agenda. En République des Philippines, 100 millions d'habitants, le célébrissime Rodrigo Duterte défraye encore la chronique à coups de mentons autoritaires, de déclarations haineuses et sanguinaires, cette fois-ci en brandissant la loi martiale, à l'instar de son prédécesseur en dictature, le président Ferdinand Marcos, au pouvoir de 65 à 86. Donc ce nouveau dictateur, élu le 9 mai 2016, son portrait n'est plus à faire. Lui dont les saillies de Malorut ridiculisent les Trump et les Poutine, les ravalant au rang de gentils démocrates, infoutus de se salir les mains, eux-mêmes. Donc le refrain que nos médias nous servent sur la lutte contre la drogue de Duterte, contre sa lutte contre la criminalité, contre sa lutte contre la corruption, semble être ce qu'il a porté au pouvoir. On sait qu'il aime à se comparer à Hitler et justement compare les juifs et les trafiquants de drogue, tout en se proposant de les éliminer lui-même avec son fusil. Donc plus qu'autoritaire, les Philippins découvrent que si la Constitution empêche normalement leur président de faire 2 mandats successifs, les mecs ils sont habitués, elle n'empêche pas leur président Duterte de brandir la dictature militaire sans aucun motif valable, parce que le trafic de drogue n'en est pas un. Pas plus qu'elle n'empêche de dire qu'il se fout royalement de la durée maximale des 60 jours de cette sorte d'état d'urgence, hein, mais en plus costaud. Donc s'il est vrai qu'il est vain de crier au loup, on peut quand même pointer la montée de politiques carrément haineux et violents un peu partout à la tête des États autour de la planète et qui ont accédé au pouvoir par le jeu des urnes et du suffrage universel à force de rhétorique guerrière et farfelue aussi, hein, puis qui, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, eh bien, balayent l'État de droit. Donc état d'urgence ici, loi martiale là-bas, émeutes en Corée du Sud et partout en Afrique. Les luttes s'accroissent et la répression aussi.
Je crois qu'on devait aller en Corée du Sud.
Ouais, on va partir, mais le trajet est un peu long parce que c'est pas à côté. Donc voilà, on arrive. Donc nous voilà en Corée du Sud où en fait les scandales continuent. Donc on avait déjà commencé à suivre cette affaire et vous en parler il y a quelques semaines quand on apprenait qu'avait été lancée une procédure de destitution de la présidente sud-coréenne suite à un scandale notamment de corruption, mais aussi le fait qu'elle a été en fait totalement dominée et manipulée par une sorte de sorcière, chamane, enfin un truc bizarre, mystique, qui tournait autour et dont qui avait totalement toutes ses oreilles et qui est donc qui en fait contrôlait plus ou moins le pouvoir de fait en tant que dans une sorte de cabinet obscur. Et donc cette présidente avait aussi, à travers, en suivant les conseils de cette sorcière, érigé la corruption en art de gouverner, qui est donc une des raisons de sa chute. Donc le dernier volet de cette affaire est l'arrestation aujourd'hui du dirigeant et héritier de l'empire de Samsung et de son vice-président. Donc Samsung, c'est quoi? Donc c'est un conglomérat mondial qui a pour nom, en fait, si on appelle ça un chabal, Showbeol, je vous laisserai trouver sur internet la prononciation exacte, de ces énormes conglomérats coréens et qui a un truc absolument gigantesque, c'est 89 sociétés employant près de 500 000 personnes, donc quasi plus de, il faut imaginer tout Lyon qui travaillerait juste pour eux, et qui possède un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 milliards de dollars. C'est surtout aussi en fait une entreprise qui contrôle de fait le pays, parce que cette entreprise à elle seule produit plus de 23% du PIB de la Corée du Sud, 13% des exportations de la Corée du Sud appartiennent à Samsung, et en fait l'ensemble des entreprises Samsung représente plus de 29% de l'ensemble de la capitalisation boursière du pays. C'est aussi une entreprise où les syndicats sont interdits et on transmet le pouvoir de façon néopotique de père en fils comme au temps d'anciens régimes en France. Donc dans le cas d'aujourd'hui, le scandale qui est tombé et qui touche ces deux personnes est le fait que pour obtenir des faveurs de la part de la présidente, de façon extrêmement régulière, des dons étaient faits à une de ses très nombreuses fondations. Et là on parle de plus de 35 millions de dollars qui auraient été échangés en échange de faveurs de l'État, notamment pour obtenir des fusions qui normalement devraient être interdites dans le droit coréen. Une des donations, ce qui est assez drôle à voir, c'est qu'en fait la plupart de ces donations, en tout cas concernant Samsung, ont permis de financer en fait l'entraînement de l'équipe de cheval de la Corée du Sud et notamment l'entraînement en fait de la fille de la gourou qui fait partie de l'équipe olympique sud-coréenne. Mais bon, après, on peut se rassurer, donc ce scandale a beau éclater, les gens passent devant la justice. L'histoire coréenne a montré que la plupart du temps, le gouvernement, après pardonner ces gens-là, au bout de quelques temps, il faisait annuler toute forme de procès ou de peine qu'il pouvait avoir. Et le seul risque prévu par les analyses est un léger retard dans la chaîne de la prise de décision qui a fait baisser l'action en bourse de 2%. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a quand même continue des rapaces qui continuent à se nourrir de moindres scandales. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que les producteurs locaux d'alcool ont eu la bonne idée de simplement changer les étiquettes de leur bière en les appelant maintenant démission et impeachment, qui est en fait mise en accusation. Et ces vendeurs de bière ont triplé leur vente en quelques jours. Donc c'est scandale, tout le monde se nourrit du scandale et puis dans l'absolu, on voit que ça va continuer.
Allez, on prend l'avion et on part en Belgique, où a eu lieu samedi 14 soir une implacable opération antiterroriste à Molenbeek encore. Vous savez, ce quartier populaire au centre de Bruxelles qui subit les opérations antiterroristes depuis certains attentats à Paris notamment, avec présence d'hélicoptères, forces spéciales et attention, dites-vous bien, 4 descentes en simultané. Paf, surprise, on va les avoir, 4 perquisitions et rien. Pas d'armes, pas d'explosifs, pas même de drogue, alors que parfois on tombe sur de la drogue quand même avec des perquises et ça permet quand même d'en embarquer un petit peu. Et bon, ils ont quand même interpellé 3 personnes pour les interroger pendant la nuit, car on ne sait jamais, peut-être ont-ils caché ailleurs que chez eux ces armes, ces explosifs et tout le reste. Et bien dès le lendemain, ils ont été relâchés puisque l'interrogatoire n'a rien donné. Donc on imagine que les habitants et habitantes de Molenbeek surkiffent la multiplication de ce type d'intervention, la stigmatisation sans cesse plus importante de leur quartier, et puis c'est pas sans nous rappeler les milliers de perquisitions en France qui ont été pour la plupart un fiasco et qui n'ont mené absolument à rien. Donc merci à l'antiterrorisme belge de nous prouver encore une fois
son efficacité redoutable.
Voilà.
Et du coup, on va un peu en Amérique latine, plus précisément en Argentine, puisqu'elle est en Patagonie, donc dans le sud de l'Argentine. Terre de feu, tout à fait. Pour contextualiser un petit peu, en Patagonie, il y a des indigènes qui s'appellent les Mapuches, qui, depuis des dizaines d'années, sont un petit peu embêtés par la multinationale Benetton, qui leur vole tout simplement leurs terres. Donc aujourd'hui, Benetton est propriétaire de plus de 900 000 hectares dans la région. Alors 900 000 hectares sur lesquels on peut voir paître paisiblement 280 000 moutons qui produisent 10% de la laine nécessaire à l'entreprise pour confectionner ses vêtements. Bon, du coup, les Mapuches, pas vraiment contents de se faire exproprier. Pour certains, ils ont décidé d'occuper le territoire qu'on leur avait en fait tout simplement volé. Et depuis mars 2015, il y a une communauté qui s'appelle Lofen Resistencia qui occupe donc des terres appartenant, en tout cas du point de vue des capitalistes, à la transnationale textile. Et ben, la semaine dernière, Benetton, non content de spolier les Mapuches, a décidé de faire intervenir les forces de l'ordre pour les virer de là. Donc il y a 21 unités mobiles de flics, donc des bus, un hélicoptère, des chevaux, des drones, tout un tas de fourgonnettes et de camionnettes qui ont investi les rues du village. Et qui ont décidé de dégager tout le monde. Ils ont saccagé les maisons, volé le bétail et interpellé 11 membres du groupe de soutien à cette communauté Mapuche qui a essayé de s'opposer à cette offensive quasi-militaire pour soutenir une grande entreprise capitaliste qu'est Benetton. Donc voilà, a priori ça fait une semaine que c'est un peu la merde par là-bas, c'est vraiment d'une extrême violence, hein. Ils tirent y compris à balles réelles sur les véhicules des Mapuches. Donc voilà, tout ça pour soutenir les grands capitalistes une fois de plus. Donc voilà, pour le moment c'est encore bien la merde, ils n'ont pas réussi à récupérer leurs terres ni leur bétail. Donc bah, nous d'ici au moins on peut exprimer notre solidarité pour les Mapuches et pour tous les peuples en résistance qui se font spolier pour les intérêts des capitalistes.
On continue, on prend l'avion et on va à Bamako pour un petit bilan de ce sommet Afrique-France. Donc en ouverture de cette grande messe néocoloniale, le président dictateur du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait un hommage vibrant selon les médias bien sûr, à un certain François Hollande. Et il nous dit que quelque chose a changé dans les pratiques politiques de la France. Il est vrai que sous François Hollande, pas moins de 3 nouvelles opérations militaires en Afrique ont eu lieu. Serval dès janvier 2013 au Mali pour asseoir la dictature de Keïta. Barkhane dès août 2014 pour étendre l'opération Serval au reste du Sahel. Et Sangaris en Centrafrique. Ce qui nous met actuellement à 4000 militaires présents en Afrique. Un record, merci François Hollande. Point d'appui permanent, il y en a. Des points d'appui permanents, il y en a au Mali, au Niger, au Tchad et à Djibouti. Et des provisoires, il y en a 2 au Mali, 2 au Tchad, 2 au Niger, 1 en Côte d'Ivoire, sans oublier les multiples barbouzeries au Cameroun, au Togo et tutti quanti. Les embrassades furent chaleureuses entre Hollande et Obiang Nguema, le président dictateur de la Guinée équatoriale depuis 1977, avec Sassou Nguesso, le président dictateur du Congo-Brazzaville de 79 à 92 et de 97 à aujourd'hui, le terrible Idriss Déby, dictateur du Tchad depuis 91. Et d'ailleurs, suite à toutes ces embrassades et ces multiples amitiés renforcées, Hollande a reconnu que les militaires français seront là encore pour très longtemps. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur internet le rapport d'une association qui s'appelle Survie, créée par François-Xavier Verschave, qui est le père fondateur de la France-Afrique, de l'analyse de la France-Afrique, de la critique du néocolonialisme français, qui détaille les interventions militaires de 2011 à 2016. Donc ce rapport est trouvable sur internet, je vous le conseille.
On va passer au national avec d'étranges cotisations sociales payées par les sans-papiers. Donc, alors qu'une candidate à la présidentielle veut supprimer l'école gratuite pour les enfants de parents étrangers sans-papiers, on découvre une info surprenante. Les cotisations sociales des travailleurs sans-papiers rapporteraient 1,3 milliard d'euros à l'État français. Donc, ces cotisations, c'est 1,3 milliard d'euros. C'est les cotisations sécu, chômage, retraite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de sans-papiers qui travaillent sous alias, c'est-à-dire en empruntant l'identité d'autres personnes avec l'indifférence plus ou moins complice de leur employeur. Et grâce à ça, ils peuvent être payés, ce qu'ils ne pourraient pas s'ils n'avaient pas d'alias. Et l'URSSAF perçoit donc ces cotisations sociales qui sont versées avec le salaire. C'est donc du salaire indirect, et sauf qu'en retour, ces mêmes travailleurs sans papier n'ont droit à rien, ni retraite, ni chômage, ni sécu. Les sans-papiers doivent même souvent rembourser le surplus d'impôts engendré par leur salaire versé au prête-nom. Donc voilà, les pouvoirs publics, bien sûr, sont au courant de tout, mais n'envisagent toujours pas d'accorder des papiers à ceux et celles qui en désireraient. Et devant ça, on peut dire que contre la justice et l'exploitation, salariés avec et sans papiers, unissez-vous.
Alors, national toujours, hier on a eu le deuxième débat de la primaire de la soi-disant gauche. Donc, comme on avait autre chose à faire que de regarder ce bébête chaud, et comme on n'a pas plus regardé le premier débat de la soi-disant belle alliance populaire, on va pas vous parler des inepties, mensonges, absurdités et autres horreurs prononcées par ces sept sbires du capital, mais plutôt des dangers de l'opportunisme en politique et la création de l'opinion publique par un petit groupe de gens qui, en plus d'un paquet de fric, possèdent des journaux, des chaînes de télé, des sites internet, des hommes et des femmes politiques et de belles montres. L'opportunisme, ou faire feu de tout bois, conduit les hommes, et en l'occurrence la femme politique, à consulter frénétiquement les sondages et à changer de vision ou de principe selon leurs fluctuations. C'est ce qui a déterminé le casting de cette brillante causerie que les médias, ceux qui publient les sondages, ont commenté avant même qu'elle ne soit finie. Or, au moment où ils sont tous là, avec leurs tronches, derrière leur petit pupitre, à déblatérer un petit quart d'heure de foutaise chacun, et en faisant tous semblant d'être vraiment candidats à la présidentielle, eh bien, il n'y en a pas un qui y croit. Sandec. Et pourquoi? Eh bien, parce que le PS, Parti Socialiste, ne trouve plus d'électeurs. Car ces électeurs, disent les médias, préfèrent Macron. Et ça ressemble donc à une primaire pour rien, à un dernier tour de piste avant de tirer la chasse d'eau. Alors ce Macron, on ne peut pas dire qu'il a torpillé non plus le PS. Les lois antisociales, les guerres, il paraît qu'à la question « le président doit-il assassiner ?», tous les pseudo-candidats ont répondu oui, et la non-politique qu'ils ont menée, eh bien, ont largement discrédité ce parti pourri. Mais quand même, Macron, ce type, ne sort de nulle part. C'est un jeune premier, nous dit-on. USA, Rothschild, Paris, Colomb, Léna, Philippe de Villiers, on ne compte plus ses amis. Et il passe au ministère de l'économie, il nous chie les pires lois et se casse avant les élections. Et pof, là, la presse, les médias qui font les sondages nous expliquent que tous les sortants de la soi-disant gauche et de la soi-disant belle alliance populaire vont se rallier à lui, l'homme de la finance. Alors effectivement, ce Macron n'est pas financé par la Russie, contrairement à ses deux ennemis déclarés, Fillon et Le Pen. Mais par contre, il l'est bien par les USA. Donc à se demander si l'avenir de la politique française, ça va être l'influence différenciée des impérialismes dominants dans la planète, la Russie à droite et les États-Unis pour l'autre droite.
Ouais. On continue avec le délibéré du procès des 8 Goodyear poursuivis pour séquestration. Donc en fait, pour résumer l'histoire, pour la première fois depuis un demi-siècle, le gouvernement avait requis des peines de prison fermes à l'encontre de syndicalistes pour avoir participé avec les salariés à des actions en vue d'empêcher la fermeture de leur usine. Résultat, en fait, prison ferme demandée par le procureur. Donc, grosse mobilisation syndicale, interpro, des manifestations, des pétitions, des meetings, une tournée de meetings dans toute la France de ces huit Goodyears qui sont un peu présentés, pas présentés, qui ont un peu incarné le syndicalisme. Le syndicalisme en danger et persécuté et réprimé.
Et combatif.
Donc, et combatif, évidemment. Et
de qualité, tu peux dire. Syndicaliste de qualité, pour une fois, quoi. Non ?
Oui, si, complètement. Assumons de qualité.
Pour une fois.
Et donc, le délibéré est intervenu ce jeudi 12, là. Mais la justice de classe a parlé. La même justice de classe qui a dispensé de peine Christine Lagarde pour une négligence de 14 millions d'euros.
250, un truc comme ça. Pardon.
Ça, c'était pas.
Bon, en tout cas, ça fait beaucoup pour eux.
Voilà.
Okay. Allez.
Bon. Et donc, si la mobilisation a payé dans une certaine mesure, puisque aucun des syndicalistes n'a pris de la prison ferme, les peines sont dures, puisque 7 des 8 salariés écopent de 2 à 12 mois avec sursis, plus une inscription au casier B2, ce qui signifie pour ces gens qui sont actuellement au chômage, qui va être complètement...
beaucoup plus difficile
de trouver du travail. Et donc, on voit ici la volonté de briser des personnes, de décourager les luttes. Mais les Goodyears affirment que malgré le choc pour eux de se délibérer, ils sont prêts à entamer des démarches pour se pouvoir en cassation. Donc, on souhaite bon courage déjà au court terme pour ces 7 inculpés. Et puis, on souhaite que aussi on se mobilise tous et toutes pour avoir gain de cause sur cette affaire et sur les autres.
Et puis pour faire cesser la criminalisation des syndicalistes et de tous les militants, qui est particulièrement au goût du jour, malgré le gouvernement socialiste, quoi.
On continue avec le retour par la grande porte de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Donc ce sont les joies de l'état d'urgence et de l'antiterrorisme qui frappent encore. L'AST revient pour les mineurs afin d'éviter, je cite, les départs pour le djihad en Syrie et en Irak. Cette AST qui avait été annulée en début de mandat, puisque c'était la gauche au pouvoir en 2012, et ben elle revient par la grande porte. Elle revient par la grande porte fin 2017, en 2017 là, puisque les personnes mineures maintenant devront présenter à la fois une pièce d'identité, l'autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire, je cite, de l'autorité parentale, et la photocopie du titre d'identité du responsable légal l'ayant signé. On imagine dès maintenant la joie des mineurs de, par exemple, 16 ou 17 ans, qui sont un peu embrouillés avec leurs parents, mais qui souhaitent partir en vacances entre potes, et qui devront se limiter à la France, même si la France, c'est beau, mais ailleurs, c'est beau aussi. Et donc, c'est une nouvelle mesure liberticide de l'antiterrorisme.
Alors, Auxerre, avec de grosses violences policières et un mort lors d'une interpellation la nuit du 5 au 6 janvier. Donc, une affaire qui n'est pas sans rappeler celle récente concernant Adama Traoré. On retrouve les ingrédients, hélas, traditionnels, lacrymo, flashball et plaquage musclé pour un seul individu. Et comme dans la récente affaire Traoré, dès l'annonce de la mort, la procureuse cherchait à effacer ou à minimiser la responsabilité des forces de l'ordre. Pas de bavure pour elle. Et bizarrement, l'autopsie, elle, révèle des contusions pulmonaires et cardiaques en lien avec le tir de flashball qu'il a subi et un syndrome d'asphyxie lié, comme dans le cas d'Adama, au plaquage au sol. N'en démordant pas, la procureuse, elle cherche de nouvelles causes annexes. L'homme aurait pu cesser sans avis son traitement médicamenteux. Elle va même jusqu'à expliquer que les policiers étaient intervenus à son sens pour prévenir un risque plus grand pour l'intéressé. Un risque plus grand que la mort ? Est-ce que le rôle de la justice est-ce le rôle de la justice de toujours protéger a priori les auteurs de bavures et de violences policières ? On dirait bien que oui.
On passe maintenant au local, après cette bonne nouvelle. On va donc parler de ce pauvre petit bichon de Gérard Collomb et de ses indemnités, de ses véritables revenus. Puisque c'est un peu sorti là dernièrement dans les médias quand même, puisqu'il s'est plaint de ses 4 000 euros en tant que sénateur. Oh, déjà c'est pas beaucoup 4 000 euros, oh là là. pauvre Pichon. Et donc, comme c'est un gros cumulard, en tant que président de métropole, sénateur et mandat de maire, il ne peut pas dépasser les 8 272 € bruts mensuels. Bon.
Mais en plus, avec tout ça, il n'a pas le temps de faire les comptes, donc pourquoi est-ce qu'on vient l'emmerder comme
voilà.
ça
voilà.
Avec ça, c'est à peine un pain chocolat. Voilà.
C'est vrai que 8 000, déjà, c'est pas beaucoup, mais alors du coup, bon, quand même, il a le droit en plus à une indemnité de fonction de 1 420 € par mois, ainsi qu'une indemnité pour frais de mandat, un IRFM, vous ne connaissez pas, mais ça a l'air bien, puisque c'est quand même de 6 037 € par mois, net d'impôts, et qui plus est, il cumule sa retraite d'agrégé de l'éducation nationale, à hauteur de 3 500 € par mois, 3 500 plus 6 000 plus 1 400 plus 8 000, je vous laisse calculer le pauvre petit Bichon.
Tu nous laisses calculer parce que t'as pas calculé toi-même en fait.
Mais il faut voir aussi qu'il a énormément d'avantages. Faut voir aussi qu'il a énormément d'avantages en nature notre Monsieur Colomb, le pauvre. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'autres articles de la presse locale qui ont pointé le fait que quand il allait à Paris, dehors du fait qu'il avait le train gratuit, il possède aussi une limousine qui l'attend avec un chauffeur qui coûte à la communauté d'Adelot, enfin à métro, plus de 200 000 € par an. Et la ville de Lyon possède un appart de plus de 370 m² qu'elle a récemment divisé en deux, mais il fait encore 250 m² qui sert à recevoir la presse local à Paris, mais qui lui sert aussi de centre d'hébergement quand ce monsieur est à Paris. Donc
quand il fait trop froid pour les sans-abri.
C'est ça, oui, il pourrait en héberger à moitié de ceux qui sont dehors vu la taille de l'appart, mais c'est pas grave. Et donc il a aussi un nombre incalculable d'avantages en nature. Je pense qu'il a pas dû dépenser moins de centimes pour manger depuis au moins un demi-siècle. Et d'autres trucs comme ça qui fait que je pense que cette personne n'est pas trop à plaindre.
Non, on peut pas dire qu'il soit dans le besoin, non. Effectivement, sans parler de probablement du patrimoine qui lui rapporte chaque année, son patrimoine immobilier, des choses comme ça, quoi.
En fait, il est richissime.
Voilà.
C'est un bourgeois, quoi.
Mais il est quand même très blessé hein, par cette polémique, quoi. Il oui, faut si quand même le souligner.
Voilà, il faut le souligner et le soutenir.
Son cœur de prolétaire voilà, saigne.
Parce qu'il est fils d'ouvrier et fils de femme de ménage. Alors ouais. Imaginez, quand il se prend un appart de 250 m², le mec... Bah, il souffre pour sa mère.
On va peut-être organiser un truc de solidarité financière, non?
Je pense, il faut.
Ah ben, on peut faire un crowdfunding pour soutenir Colomb. Voilà. Je pense que ça devient nécessaire.
Il a quand même souligné, si j'ai parlé de cauchemar, c'était pour qualifier la gestion de mon agenda. Voilà, c'était pas le cauchemar de si peu d'argent.
Bah, c'est normal, tout ça, tout ça. Baffré.
Parce qu'en plus,
aller voir des prostituées, baffré, serrer des mains et tout, c'est pas bien.
Non, mais dans le monde réel, il faut voir, c'est en fait le délire du fond, c'est qu'il se plaint qu'en fait une indemnité a été baissée sur du Sénat pour en fait absence. En fait, on lui a retiré de l'argent parce qu'en fait le mec il est juste pas là. En fait, il est élu en tant que sénateur, il n'y va jamais.
Il a trop de charges.
Il a trop de charges. Il doit aller dans le monde entier pour faire de la pub pour sa super marque.
Il faut vraiment arrêter de voter pour lui.
Il faut voter Macron si on veut qu'il ait moins de charges.
oui, votons pour son fils putatif et comme ça ils vont pouvoir se partager le pouvoir. Mais en fait, l'ancien régime a pas beaucoup évolué en fait. Hein. On passe par les systèmes d'adoption. Mais au final, ça revient au même. Du père en fils, on se transmet la connerie et l'argent. Bon. Voilà.
Sauf dans certains cas.
Oh, oui, oui. Ben. C'est à moi, pardon. Mais oui. Alors, désolé.
Bon, il n'était pas revenu de Corée du Sud.
Non, mais oui. Et la Corée du Sud, j'y ai passé un peu trop de temps, donc le sujet d'après, il est totalement à la Z. Mais il est quand même ultra trash, donc on va quand même vous en parler. C'est que Rue89 Local a balancé un article concernant un centre, en fait, qui est géré par les services de l'immigration française, et qui se situe à Gerland. Qui se situe dans le 22 rue de l'Effort, en plus le nom est magnifique, et dont ce foyer en fait est un foyer qui a pour but d'accueillir des gens, mais qui, enfin officiellement, mais qui sert aussi surtout de centre de retour, d'aide au retour. Donc en fait, l'affaire générale, c'est qu'il y a beaucoup de gens donc, qui sont à la rue, on sait tout ça à l'heure actuelle, un certain nombre bénéficient d'hébergement en hôtel notamment, et bah, il s'est passé que récemment, certains employés de l'Office français de l'immigration sont passés dans les hôtels pour leur apporter des lettres en leur proposant d'aller dans ce centre d'hébergement. Sauf que ce centre d'hébergement n'en est pas un centre d'hébergement classique. C'est un centre, comme je disais, d'aide au retour. Donc, quand les familles sont sorties des hôtels et arrivent dans ces centres, on leur propose de signer un certain nombre de papiers qui les autorise à rester entre 45 jours dans les locaux renouvelables une fois, et qu'au bout de cette période, il faut qu'ils rentrent chez eux, quoi. Donc il y a toute une procédure d'aide qui est là et compagnie, et en fait le truc c'est soit ils restent là dans ce foyer et ils sont assignés à résidence, donc ça veut dire être contrôlés en permanence deux fois par semaine, aller signer chez les flics, ou sinon en fait ils n'ont plus le droit au principe d'aide, donc ils vont à la rue. Donc c'est là en fait le choix. Donc soit vous restez là jusqu'à ce qu'on vous foute dehors avec une indemnité de retour qui est enfin qui paie en général pas le billet d'avion, soit bah, vous allez à la rue avec votre famille, sachant qu'une vague de froid et de -10 s'annonce la semaine prochaine. Donc ce magnifique foyer, le problème c'est ça en plus, c'est un véritable guet-apens, parce qu'il y a un certain nombre de témoignages en fait d'associations qui sont là, qui expliquent qu'on cache des informations aux familles jusqu'à ce qu'elles soient là, jusqu'à ce qu'elles signent des papiers qui les engagent en fait dans cette procédure d'expulsion. Et notamment un certain nombre d'associations en fait, dont Jamais Sans Toi, hein, si je me souviens bien, appelle à manifestation régulière contre ce foyer pour exiger en fait tout simplement soit sa fermeture, soit sa transformation en véritable foyer d'accueil pour toutes ces familles qui sont à la rue.
D'autant qu'effectivement le courrier qui est donné aux familles qu'on se propose d'accueillir, de tranquillement renvoyer chez eux, il est vraiment, enfin effectivement quoi, pour le moins très allusif concernant la nature véritable du centre en question quoi.
Et pas traduit.
Et en plus, en général, tout ça n'est pas traduit, mais faut quand même pas trop leur en demander. Hein.
Du coup, vu que les sans-papiers sont des gens intelligents, au moins comme nous, eh bien, ils font souvent le choix de la démerde et préfèrent éviter les institutions qui cherchent à les réprimer, à les renvoyer chez eux. Et ils se retrouvent à la rue.
Ce qui permet de dire au préfet et à tous ceux qui sont là-haut de dire qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir de nouveau gymnase parce qu'en fait, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande parce que oui, quand vous demandez, si après on vous interne limite de force, on vous force au retour, ou on vous empêche de rentrer quand vous avez des chiens, ou si vos enfants sont trop bruyants, ou un nombre incalculable de critères à la con qui font qu'en fait, au final, vous avez plus ou moins pas assez, bah oui, c'est sûr que les gens ne demandent pas, sauf qu'en même temps, en fait, les associations recensent, ne serait-ce qu'à Lyon, plusieurs centaines de personnes à la rue. Et donc voilà, donc c'est la merde.
Ah, plus exactement, l'INSEE, elle annonce 26 000 logements vides à Lyon pour 2 000 personnes minimum qui dorment dehors.
Donc, ce qui fait de la place, quoi.
Ce qui fait beaucoup de place.
Et même pour les immigrés, parce que sur Internet, on a vu plein de commentaires très très cons de gens qui disaient qu'on faisait du travail pour les immigrés et pas pour les SDF. Mais en fait, quand vous avez 26 000 logements qu'en intramuros à Lyon, bah, y a de la place pour, en fait, pour à peu près 10 fois tous les demandeurs d'où qu'ils viennent.
C'est bien pour la spéculation immobilière et faire monter les prix aussi.
Oui, parce qu'il y a aussi 8000 résidences secondaires à Lyon intramuros, ce qui est quand même assez drôle. Quoi, mais...
voilà. Alors, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes du froid, enfin surtout de la misère, dont une juste en dessous de la roue, illuminée au cœur de la ville, des lumières, froide lumière justement, où on peut justement transformer un hôpital public en hôtel de luxe et construire des musées flous à un quart de milliard de dollars. Mais bon, comme on l'a dit, on chasse les pauvres, on met des familles à la rue, où on refuse d'ouvrir des gymnases pour loger des enfants qui sont pourtant scolarisés, et où le maire, comme on l'a dit, se plaint de la baisse de ses revenus tout en spéculant sur la hausse des loyers, et donc du mal logement. Donc, sans parler des causes de la misère qui sont innombrables, malgré quand même que la bourgeoisie soit responsable ou bénéficiaire de la plupart, les pouvoirs publics, non contents de refuser le remède, refusent le pansement. Et pourtant, la loi, avec un grand L, grandiloquente, stipule le droit au logement. Donc, est-ce à dire que Colomb et l'État ne respectent pas la loi ? Évidemment, l'État n'est-il pas le plus froid des monstres froids ? Et Colomb n'est-il pas une crapule ? Ne peut-il pas se bouger un peu le derche pour loger des gens qui vont dormir à moins 10 degrés, même si ses revenus ont baissé ? Le plus hallucinant quand même, c'est quand même que les associations, en plus de gérer le quotidien et de sauver la peau d'un paquet de gens, elles passent une partie non négligeable de leur énergie à réclamer uniquement le simple respect des lois. Donc à se demander, quand on voit toute la merveilleuse énergie des gens qui se mobilisent pour aider les familles, pour loger les gens, est-ce que en plus de provoquer la solidarité, il faudra réquisitionner l'hôtel de ville ?
Eh bien, pourquoi pas. avant Envelin, vendredi matin, à peu plus de 6h du matin, deux livreurs de cigarettes s'apprêtaient à livrer un bureau de tabac quand soudain, de nulle part, surgit une fourgonnette qui leur coupe la route. Donc il y a deux hommes cagoulés et armés qui vont forcer les deux livreurs à se diriger vers les puces du canal à l'abri des caméras et des regards indiscrets et qui embarquent 120 cartons de cigarettes puis s'enfuient. Donc pas de blessés, pas de casse et un butin estimé à 180 000 euros. Voilà pour la petite info
calme.
Du vendredi.
On continue
Du coup, avec notre dossier spécial Trump qu'on vous a concocté avec amour. Et du coup, on commence par une petite chanson en l'honneur du futur président.
Nouveau président des États-Unis. Donc,
et du monde.
Ce sont deux rappeurs, IG et Nipsey Hussle, de la West Coast, qui ont fait une chanson devenue en très peu de temps une des chansons anti-Trump les plus populaires. Sorte de symbole du malaise, voire plus que du malaise, hein, entre les communautés afro-américaines, latino-américaines et Trump. Chanson qui a été dévoilée notamment lors du festival Coachella, l'un des plus tendances du moment. Leur clip est plutôt pas mal, vous pouvez aller le voir sur internet. Et il commence avec le témoignage d'une étudiante noire.
Qu'on a coupé ici pour les.
Qu'on a coupé parce que de toute façon, vous pouvez pas voir le clip et le début, bah voilà, c'est surtout le clip. Qui souhaitait se rendre, donc cette étudiante, à un meeting du candidat en février 2016 et qui a été empêchée de rentrer avec une trentaine d'autres étudiants noirs à cause de leur couleur de peau. Et cette chanson s'appelle Fuck Donald Trump.
Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snap you. Surprise the nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the riding the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally, what? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating about my way more. Hey, Donald, and everyone that follows, you gave us your reason to be president, but we hate you. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump.
I don't like your ass.
Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah,
I really don't like
Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah.
Nigga, am I tripping? Let me know. I thought all that Donald Trump bullshit was a joke. Know what they say when rich niggas go broke. Look, Reagan sold coke, Obama sold hope. Donald Trump spent his trust for money on the vote. I'm from a place where you probably can't go. Speaking for some people that you probably ain't know. There's pressure built up and it's probably gon' blow. And if we say go, then they probably gon' go. You vote Trump, then you probably on dope. And if you like me, then you probably ain't know. And if you been in jail, you could probably still vote. If we let this nigga win, we gon' probably feel broke. You build walls, we gon' probably dig holes. And if your ass do win, you gon' probably get smoked,
fuck
nigga.
Fuck Donald Trump.
Fuck you.
Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah.
I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall.
Yeah.
Mark my words.
Yeah.
Hold up, I fuck with Mexicans, got a plug with Mexicans. When a little need a switch, who I call Mexicans. This Comedy Central ass nigga come be the president. Hold up, Nip, tell the world how you fuck with Mexicans.
It wouldn't be the USA without Mexicans. And if it's time to team up, shit, let's begin. Black love, brown pride, and assess again. White people feel the same as my next of kin. Let this nigga win, God bless the kids.
God bless the kids, this nigga wicked and weird. When me and Nip link, that's Bloods and Crips. When your LA rally, we gon' crash your shit.
Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah.
Et voilà, du coup, pour ce dossier spécial Trump, à quelques jours de son investiture, on commence un peu par un petit portrait du prochain président américain. Donc, pour le décrire en quelques mots, hein, bon, tout le monde connaît déjà un peu le personnage, mais il se distingue par sa brutalité, sa misogynie. Donc, par exemple, après
sa coupe de cheveux
de qualité. Du coup, je disais sa misogynie, parce que par exemple, après avoir divorcé de sa première femme, il va regretter de l'avoir fait entrer dans son entreprise, puisque son poste l'aura incité à trop penser par elle-même. Et donc, bon, bah, tout naturellement, à finir par se barrer. Donc voilà, il se distingue aussi par son racisme, sa haine des journalistes. On a tout un tas de sorties sympathiques à leurs propos, et sa cupidité et sa mégalomanie. Pour l'anecdote, il a également une aversion pour l'alcool, le tabac et les drogues. Et son signe astrologique est Gémeaux. Donc, Marmor, si tu nous entends, n'hésite pas à nous présenter le thème astral de Donald Trump pour l'année à venir. Donc, plus précisément, il est né le 14 juin 1946 à New York. À 13 ans, il est envoyé dans une école militaire pour canaliser son énergie. Alors, une fois celle-ci bien canalisée, il va entamer des études d'économie, en fait, dans une école de commerce. Son père est déjà promoteur immobilier et il prend naturellement sa succession, en fait, avant même d'avoir terminé ses études, puisqu'il il devient directeur général de la Trump Organization en 71. Alors, dès 73, hein, il perd pas de temps, il est accusé de procéder à une discrimination systématique des Noirs pour la location des appartements appartenant à l'organisation. Alors, bien sûr, lui, il va avancer qu'en réalité, simplement qu'il veut pas louer ses appartements à des gens dont les revenus leur permettraient pas de le faire. Donc Trump le mégalo se met principalement à construire d'immenses bâtiments un peu partout dans le pays. Bâtiment à qui gratte-ciel, à qui donne son nom, hein, parce que faut pas déconner. Des casinos aussi, hein, pareil, il donne son blaze systématiquement, hein, au cas où on n'est pas bien compris. Donc, il est également extrêmement procédurier et il a une vision assez personnelle de l'application de la loi, ce qui fait qu'il est impliqué dans plus de 4000 procès. Et il y en a tout un tas qui devraient venir dans les années à venir. Alors, par exemple, il a été accusé de publicité mensongère après la création de la Trump University. Donc, en fait, vu que c'est une espèce d'école complètement pérave, l'appellation université, qui en plus est soumise à une législation un peu précise, n'était pas du tout en accord avec la réalité de l'enseignement. Donc lui, on l'accuse de publicité mensongère. En retour, il accuse lui, le magistrat en charge du dossier, de partialité. Alors pourquoi ? Parce que le dit magistrat a des origines mexicaines. Voilà, on a la défense qu'on mérite. Hein. Donc pour le reste, c'est surtout des classiques. Hein. Fraude fiscale, fraude fiscale en tout genre, diffamation... Licenciement abusif, alors notamment dans ses nombreux terrains de golf. Discrimination, donc on l'a vu déjà pour l'attribution de ses logements, mais aussi à l'embauche. Et des arnaques en tout genre. Enfin, il est accusé d'agression sexuelle par beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a une plainte qui a été déposée en juin pour un viol qui a été commis en 94 sur une jeune femme de 13 ans. Donc un mec bien sous tout rapport. En affaires, hein, il ne fait pas mieux. Dès les années 90, les banques se rendent compte qu'en fait, il les roule depuis des années en contractant des prêts, alors même que ses dettes excèdent ses actifs. Donc théoriquement, il n'aurait pas le droit auprès de ces banques-là. Mais en allant voir différentes banques, il arrive à en rouler un certain nombre. Du côté de sa carrière politique, donc, il s'est d'abord dit démocrate avant en fait, de s'engager réellement aux côtés de Ronald Reagan en 87. Il essaye ensuite de devenir colistier de Bush père en 88, puis quitte le parti républicain en 99. L'année suivante, donc en 2000, il brigue l'investiture du parti de la réforme, plus à droite que le parti républicain. Mais ses ambitions présidentielles vont finir par le ramener dans le giron du Parti républicain, mais bien après, c'est-à-dire en 2009. Du côté de sa fortune, en 82, son patrimoine s'élève à 200 millions de dollars. Elle est aujourd'hui de 3,7 milliards de dollars. Alors en fait, hein, c'est pas dû juste à sa qualité d'homme d'affaires, parce qu'en réalité, il semblerait qu'à part frauder et essayer de rouler tout le monde un peu partout, c'est pas un homme d'affaires très bon. C'est surtout ses fonctions de coproducteur et de vedette de The Apprentice, qui est une émission de télé-réalité dont on parlera après, qui vont lui permettre de s'enrichir et d'en faire une star. Donc justement, on écoute tout de suite le lancement de cette émission de qualité qui nous permet d'éclairer ce personnage génial qu'est Donald Trump.
New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. A concrete metropolis of unparalleled strength and purpose that drives the business world. Manhattan is a tough place. This island is the real jungle. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. But if you work hard, you can really hit it big. And I mean really big. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos, and private resorts like Mar-a-Lago, one of the most spectacular estates anywhere in the world. But it wasn't always so easy. About 13 years ago, I was seriously in trouble. I was billions of dollars in debt, but I fought back and I won big league. I used my brain, I used my negotiating skills, and I worked it all out. Now my company's bigger than it ever was, it's stronger than it ever was, and I'm having more fun than I ever had. I've mastered the art of the deal, and have turned the name Trump into the highest quality brand. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for the apprentice.
Ça fait super flipper.
Ça fait trop peur. Donc voilà, donc là, on vient d'entendre donc, le lancement de la saison 1 de The Apprentice, donc, qui a commencé en 2004, quelque chose comme ça. Et donc Donald Trump, qui en était jusqu'en 2015 le présentateur et le producteur, donc il se présente dans le lancement, et il présente notamment la manière dont il a réussi grâce à sa maîtrise de l'art de la négociation. Il précise quand même que dans les années 90, il a eu de gros problèmes, c'est-à-dire que quand même il avait des millions de dollars de dettes, soit dit en passant, contractés par des emprunts insolvables. Voilà. Et par contre, depuis... ça va beaucoup mieux pour lui et donc il cherche à enseigner son art de la négociation et à trouver des apprentis pour le suivre et devenir aussi bon que lui, parce que depuis que ça marche en affaires, et ben il s'amuse beaucoup. Donc voilà, donc on va reprendre sa biographie. Donc de 2004 à 2015, il anime et produit de la télé-réalité. Et c'est là que va débuter vraiment son véritable, sa vie politique, on va dire, après avoir voulu se présenter en 2012, en tant qu'indépendant pour les primaires. En fait, il ne le fera pas. Et c'est à la réélection d'Obama qu'il appelle, je cite, à marcher sur Washington et à arrêter cette mascarade. C'est donc logiquement qu'il se présente au présidentiel de 2016 pour finalement... devenir le 45e président des États-Unis. Voilà.
On continue sur Trump toujours, mais depuis qu'il est élu et avant qu'il devienne réellement président des États-Unis, c'est-à-dire vendredi, il a donc il a même terminé maintenant à constituer son bureau, son administration, et il a placé du gros lourd. C'est une administration richissime et principalement d'extrême droite qui va diriger la première puissance mondiale à l'environnement. À l'environnement,
c'est du lourd.
On a un certain Scott Pruitt, un climato-sceptique. D'ailleurs, Trump a une bonne punchline sur le climat.
Oui, il va nous dire, par exemple, le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive.
Et ça, en fait, c'est un tweet qu'il a tweeté sur la même bande son que le lancement de son émission de télé-réalité.
Et on voit là où il est pote avec Poutine, quoi. Enfin, 3 degrés de plus, c'est une opportunité pour la Sibérie.
Voilà. On validera voilà. cette intervention. On continue.
On va parler de Poutine après d'ailleurs.
On va en parler.
On a de la punchline aussi.
À l'éducation nationale, donc il a placé une milliardaire idéologue de la droite ultra-conservatrice, catholique intégriste, qui s'appelle Betsy DeVos. À la justice, il a placé Jeff Sessions, ancien penseur informel du KKK, le Ku Klux Klan, donc joyeuse organisation ultra-gore, suprémaciste blanche et compagnie. C'est un raciste, il est opposé à toute régularisation de tous les sans-papiers, à l'avortement, au mariage homosexuel, d'ailleurs comme à peu près l'intégralité des personnes qu'il a placées, que Trump a placées dans son administration. Pour le travail, ouais, le travail, il a placé un patron millionnaire d'un groupe de fast-food, le CKA Restaurant, qui évidemment va mener des politiques contre les travailleurs et en faveur du patronat, avec des exonérations fiscales patronales en masse, diminution des réglementations, etc., etc. Et là, pareil, il a des trucs intéressants sur l'emploi à dire.
Ouais, il nous a dit « Nous allons créer des emplois, merci. J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le pense vraiment. » Waouh!
Ouais. Mieux que Ramsès.
Voilà. Donc, merci à Trump. Et puis, on vous racontera après qui il a placé pour la défense et la diplomatie, parce que ça envoie aussi du lourd.
Ouais, on va reparler. Je disais tout à l'heure qu'il était particulièrement misogyne. Hein. Je pense que tout le monde a eu vent un peu de ses différentes citations, notamment à l'encontre d'Hillary Clinton. Il nous a dit.
À l'encontre d'Hillary Clinton. Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari ?
Voilà, wow. Donc,
c'est gras, c'est bon, c'est parfait.
Il adore les femmes. Sur l'avortement aussi, il ne fait pas du tout flipper, puisque ses positions sont vraiment tout à fait
admirables
et progressistes, puisque pour lui, il faudrait punir l'avortement. Donc, je vous laisse écouter ce petit extrait d'une interview.
Oui ou non ? La réponse est oui, il faut qu'il y ait une certaine forme de punition. Pour la femme ? Oui, il doit y avoir une sorte de punition. Et sinon, l'homme qui l'a mise enceinte, est-ce qu'il est responsable aux yeux de la loi pour ses avortements ou est-ce qu'il n'est pas responsable de ses avortements ? Eh bien, écoutez, différentes impressions, différentes personnes, je dirais que non.
You're fired.
You're fired.
You're fired.
Faut pas déconner non plus, hein. Excusez-nous, il y a eu un petit bug technique, mais faut pas déconner non plus, hein. On veut bien punir, mais juste les femmes.
Et il pourrait punir les fœtus morts.
Les fœtus de femmes.
Ils sont déjà punis, hein. Je suis pas sûre qu'ils passent le purgatoire, les fœtus avortés.
Alors, concernant sa politique intérieure, donc toujours, on va parler de ce qu'il compte mettre en place, donc Trump compte bien mener à bien ce qu'il a promis pendant sa campagne, donc des mesures xénophobes, populistes, etc., etc. Et tout d'abord, il souhaite éliminer tout bonnement l'Obamacare, donc le système de sécurité sociale difficilement mis en place pendant les mandats d'Obama. Et ensuite, il souhaite aussi mener une politique migratoire ferme. Et donc, il a promis, on en a tous entendu parler, je pense, il a promis de construire entre le Mexique et les États-Unis un mur, donc de 1600 km de long, qui coûterait pas moins de 25 millions de dollars. C'est cher, mais Trump assure que ce n'est pas les États-Unis qui vont payer, c'est bien les Mexicains. Or, le 11 janvier, Peña Nieto, donc le président mexicain, remettait les choses au clair en assurant qu'il voulait bien discuter avec Trump des clandestins, mais absolument pas payer le mur. Donc, à noter quand même rapidement que le pesos depuis l'élection de Trump a énormément baissé, donc on en est à 22 pesos pour un dollar, ce qui pousse les Mexicains à manifester en ce moment contre l'inflation. Et ceux-ci souhaitent la démission de Nieto. Pour continuer sur les mesures contre l'immigration que souhaite mettre en place Trump, il veut tripler le nombre d'agents chargés de l'immigration et compte renvoyer massivement des sans-papiers, le nombre étant estimé à 11 millions sur le territoire américain. Voilà. Il souhaite aussi mettre en place des peines de prison allant de 2 ans à plus pour les clandestins qui tenteraient de revenir sur le territoire après avoir été exclus. Et par exemple, il va nous parler des Mexicains dans un tweet, encore une fois.
quand le Mexique nous envoie ses gens, les immigrés mexicains donc, ils n'envoient pas les meilleurs d'entre eux. Ils apportent des drogues, ils apportent le crime, et ce sont des violeurs.
Donc c'est bien pour ça qu'il faut construire un mur et mener une politique dure pour éviter cette invasion qui continue d'année en année à se faire sur le territoire des États-Unis. Et donc, pour continuer dans ces mesures... Ouais. Pour continuer dans ces mesures, donc, il voulait revenir sur le droit du sol, mettre en place des tests, des dépistages idéologiques. Donc, voilà, donc, toujours pour essayer de prévenir l'entrée sur le territoire d'extrémistes islamiques. Il souhaite aussi geler l'immigration en provenance des zones, je cite, gangrénées par le terrorisme. Et donc, sans préciser où ces zones se trouvent, évidemment, on ne sait pas où est le terrorisme. Voilà, je passe la parole.
Alors, Trump et la diplomatie, la défense, l'impérialisme américain, on va parler de ce qu'on sait, on va pas faire de politique fiction, mais on va parler un peu des personnes qu'il a placées au poste stratégique, et notamment son secrétaire d'État à la diplomatie, Monsieur Rex Tillerson, qui est le patron du géant pétrolier ExxonMobil et ancien patron de 1998 à 2006 de Exxon Neftegas, une filière russe d'ExxonMobil, qui est d'ailleurs domiciliée aux Bahamas, comme 67 autres sociétés d'Exxon. Tillerson, très apprécié de Poutine, a été décoré du prestigieux Ordre de l'Amitié par le même Poutine. Et il est très très proche du patron de Rosneft, le principal producteur de pétrole russe. The Guardian a révélé que l'administration Trump, d'ailleurs, comptait abandonner la politique américaine dans le dossier ukrainien, ce qui permettrait à la co-entreprise russo-américaine, dans la mer de Kara, de faire grimper le cours d'ExxonMobil et de rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros aux géants pétroliers. Il faut partir du principe, de toute façon, que ces deux hommes perçoivent le monde comme une vaste jungle où la concurrence est la règle absolue, indépendamment de la loyauté ou de l'hostilité des pays envers Washington. Et qui l'a placé au poste clé de la défense ? Et ces deux généraux ultra-réactionnaires, qui sont absolument pro-russes, très proches de Moscou, contre l'Iran, qui considèrent qu'il faut absolument éradiquer l'islamisme terroriste à l'échelle mondiale. Et ça, c'est la première fois d'ailleurs que deux militaires sont placés au poste clé, c'est-à-dire conseillers à la sécurité nationale et au ministère de la Défense. Et je terminerai sur ce point, c'est que Donald Trump a recommandé, et ça on le sait déjà, une expansion massive des forces armées, en particulier de la marine, la mieux adaptée aux opérations coup de poing et de force. Et d'ailleurs, Trump a quand même déclaré que si des parents ou des civils associés à Daesh mouraient, eh bien c'était tant pis pour eux. Et d'ailleurs, sur la torture, je pense qu'on pourrait citer sa petite punchline.
Eh bien, la torture, ça marche, et même si ça ne marche pas, les suspects la méritent. Il proposait aussi de réintroduire l'usage du supplice de la baignoire.
Voilà, donc ces postes clés sont aussi tenus par des ultra-réactionnaires et on n'a vraiment pas hâte de voir ce que ça va donner à l'échelle internationale.
Non, en effet, on n'a pas hâte du tout parce que ça a quand même l'air d'être un grand malade. Et du coup, pour conclure un peu de manière plus drôle, on vous proposait d'écouter le gimmick de son émission où il virait les gens systématiquement en les humiliant tranquillement.
You're fired.
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 Et du coup, l'agenda rapidement. Alors, pour cette semaine, donc mardi.
Mardi à 19h à la librairie La Griffe, il y a une réunion publique contre la tenue du Front National à la Tête d'Or. Donc, réunion publique donc, à partir de 19h. Voilà, pour s'organiser.
Jeudi 19 janvier, 20h, à la MJC du Vieux Lyon, qui se trouve à la 5. Place Saint-Jean, 69005 Lyon. Projection, débat autour de l'intérêt général et moi.
Et samedi 21 janvier, du coup, en solidarité avec les féministes américaines qui vont se retrouver bien dans la merde grâce à Trump, il y a une manif à Lyon qui est organisée à 14h. Voilà.
Et après, on a tout le week-end, c'est un week-end spécial pour autour de la question du collectif Justice et Vérité pour Adama. Donc il y a des événements un peu partout dans la région. Il y a un truc, si je me souviens bien, le vendredi à Saint-Thé, à Grenoble, il y a une autre chose le samedi. Et nous, on vous appelle plus localement de venir le dimanche à 14h, place Jean Massé, pour venir manifester, pour exiger enfin de la justice pour Adama et toute sa famille.
Et sinon, l'agenda de rébellion pour en savoir plus.
Et nous, on vous dit à lundi prochain. Et on laisse l'antenne.
À lundi.
Au métal. We'll be right back.